de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La tempête tropicale Amanda frappe le Salvador. Le pape François rappelle la pandémie de pauvreté après la COVID-19. Le Canada interdit aux navires de croisière d'accoster dans son pays. Chaque étape d'Israël déclenche l'instabilité en Cisjordanie, a déclaré l'ONU. Réflexion sur la naissance de Pancasila, la police nationale améliorer la discipline en accueillant une nouvelle normalité. 17 000 permis d'exploitation industrielle ont été publiés pendant la pandémie. Le responsable de KTNA apprécie le programme pour KUR Agriculture. Voici le journal complet. La tempête tropicale Amanda qui a frappé le Salvador et le Guatemala dimanche a tué au moins 10 personnes. Une personne a été portée disparue. De plus, dans San Salvador, 50 maisons et 23 véhicules ont été endommagés par la pluie et les vents violents. Le maire Ernesto Musson, comme l'a rapporté l'AFP lundi, a déclaré que sa partie avait connu une situation sans précédent. Pendant ce temps, le président du Salvador, Nayib Bukele, a imposé un état d'urgence pendant 15 jours pour surmonter la tempête. Le chef suprême des catholiques, le pape François, a déclaré que l'impact de la pandémie de COVID-19 émergerait la pandémie de pauvreté. Le pape François, lors d'une allocution dans un message vidéo à l'occasion de l'anniversaire de la Pentecôte, comme rapporté par l'AFP, lundi a déclaré que la pandémie de COVID-19 qui a balayé le monde est un excellent test pour les citoyens du monde pour déplacer leur esprit humain. Il a souligné que dans la pandémie actuelle, l'humanité a également l'obligation de construire de nouvelles réalités, en particulier pour les plus pauvres. En effet, il a appelé les gens du monde entier à aider à faire face à la pandémie de pauvreté. Associé au nombre de cas de propagation de cas d'infection par le virus corona dans divers pays, le Canada est l'un des pays qui n'a pas échappé à la pandémie du virus corona. Citant plusieurs sources par dimanche, il y a 90 190 cas d'infection par le virus corona avec 48 103 personnes récupérées avec succès et 7 073 morts. Pour empêcher la propagation du virus, le Canada interdit aux bateaux de croisière d'accoster dans son pays. Cité du SA Today, non seulement les navires de croisière, les autres navires transportant plus de 100 passagers sont également interdits de naviguer. Le ministre canadien des Transports, Mark Garneau, a déclaré que le gouvernement est toujours déterminé à protéger tous les Canadiens au milieu de cette pandémie. Garneau a déclaré dimanche que, pour cette raison, il a annoncé les dernières mesures pour les navires de croisière et autres navires à passagers au Canada, y compris l'interdiction pour les plus grands navires de croisière d'opérer dans les eaux canadiennes jusqu'au 31 octobre 2020. L'Organisation des Nations Unies rappelle l'émergence de l'urgence pandémique COVID-19, donnant sa propre note sur l'insuffisance de cadre qui régit les relations économiques et administratives entre Israël et Palestine, d'où le contenu d'un document récemment publié par les Nations Unies. Le coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nikolay Mladenov, a été cité sur le site internet de Relief Web lundi, affirmant que toutes les parties doivent prendre part dans les mois à venir pour garantir la perspective d'une résolution des deux pays négociée pour le conflit conformément à la résolution de l'ONU, au droit international et aux accords bilatéraux. Le chef de la police indonésienne, Kapolri Idham Aziz, invite le public à accroître l'unité et l'intégrité en renforçant la discipline en accueillant la nouvelle normalité. L'invitation a été transmise par le chef de la police nationale comme l'élan de la naissance de Pancasila, qui est toujours commémoré le 1er juin, ainsi que des documents de réflexion au milieu de la pandémie de COVID-19. Idham Aziz, dans sa déclaration écrite, lundi a déclaré que ce n'est qu'avec la discipline que l'Indonésie pourrait immédiatement sortir de cette pandémie. Il croit qu'avec une discipline basée sur l'unité et la communauté peut répondre à la nouvelle normalité pendant la pandémie de COVID-19. Le ministère indonésien de l'Industrie a délivré environ 17 000 permis opérationnels pour la mobilité et les activités industrielles, IOMKI, au milieu de la pandémie de coronavirus. Le permis a été accordé aux sociétés industrielles et aux sociétés de domaine industriel par le biais du Système national d'information industrielle. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a déclaré lundi que les entreprises disposant d'IOMKI doivent signaler la mise en œuvre du protocole de santé une fois par semaine et qu'il y a des sanctions pour violation de cette règle. Le ministère de l'Industrie continue de se coordonner avec le gouvernement provincial pour améliorer la supervision et l'orientation des entreprises industrielles étant encore en activité. Winarno Tohir, chef du groupe des agriculteurs et des pêcheurs, ou KTNA, a apprécié les efforts du ministère de l'Agriculture pour encourager le programme de crédit aux entreprises, KUR, pour le secteur agricole. KUR, selon Winarno, a grandement aidé la condition des agriculteurs et des groupes d'agriculteurs qui ont été directement touchés par la pandémie de COVID-19. Winarno lundi a déclaré qu'avec de l'aide de KUR, l'Indonésie pourrait résister aux turbulences et aux menaces de la crise alimentaire parce que les agriculteurs continuent de produire. Il a estimé que cette démarche était conforme à la direction du président indonésien Joko Widodo, exprimée à plusieurs reprises. Serge Ritter, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, le respect des droits des enfants dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Le 1er juin est commémoré comme la journée internationale pour la protection des enfants. Cette journée a été déclarée pour attirer à l'attention du monde sur les problèmes des enfants. Dans le même temps, cela rappelle aux adultes qui ont une dette de donner la meilleure prestation aux enfants. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989 stipule qu'il existe 10 droits des enfants, à savoir le droit de jouer, de recevoir une éducation, une protection, le nom, le statut national, la nourriture, l'accès à la santé, les loisirs, l'égalité et d'avoir un rôle en développement. Pendant la pandémie de COVID-19, les enfants ont certainement besoin de plus d'attention. Le nombre d'enfants exposés à COVID-19 en Indonésie inquiète vraiment de nombreuses parties. Selon la Commission indonésienne de protection de l'enfance, jusqu'en mai 2020, au moins 800 enfants indonésiens ont été positivement exposés par le COVID-19. Plus l'enfant est exposé au COVID-19, plus les tâches des parents sont plus grandes, et d'autant plus que les enfants ne sont pas en mesure de vivre pleinement en prêtant attention aux protocoles de santé. Leurs mouvements sont de plus en plus limités, leur désir de jouer avec leur père ne peut être pleinement satisfait, et leur souhait de participer à des activités d'apprentissage à l'école doit également être étendu. Pour ceux issus de familles aux économies limitées, vivant dans les zones rurales, les zones intérieures et directement touchées par COVID-19, cette condition alourdira certainement le fardeau. Parce que toutes les femmes indonésiennes ne disposent pas d'appareils numériques qui permettent au processus d'enseignement à distance de se dérouler sans heure. Sans parler de la capacité des parents à être directement impliqués dans le processus d'apprentissage dans le réseau n'est pas répartie également. Une telle situation est désormais le devoir et la responsabilité de toutes les parties de faire respecter les droits des enfants. Bien sûr, en accordant la priorité à l'aspect le plus important. Indéniablement, les enfants ont le droit de jouer, de développer leurs images et leurs créations. Mais en ce moment, les droits à la santé et à l'éducation sont les plus essentiels. Avec la participation d'autres parties, les enfants peuvent être préparés en un groupe prêt à vivre dans un nouvel ordre normal. Ils portent toujours des masques lorsqu'ils sortent de la maison, se lavent fréquemment les mains, gardent leur distance et restent plus à la maison. Les parents et l'école peuvent motiver les enfants à stimuler leur créativité. Le gouvernement central et régional devrait allouer un budget spécial au processus d'enseignement à distance. Le budget alloué est destiné au renforcement des capacités des enseignants à concevoir un enseignement à distance facile et simple, efficace et de bonne qualité. La période de pandémie de COVID-19 peut être un élan pour favoriser la sympathie et l'empathie des enfants afin qu'ils soient plus sensibles à leur environnement et favoriser un esprit d'entraide. En retour, cela leur fait jouer un rôle meilleur dans le développement. Espérons que le nombre d'enfants exposés au COVID-19 ne continuera pas d'augmenter. Espérons que les enfants indonésiens deviendront une génération saine et forte. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 2 juin. Le 2 juin 1946, le référendum institutionnel italien en 1946. Le référendum institutionnel était un référendum organisé en Italie le 2 juin 1946 et était un événement important dans l'histoire de l'Italie moderne. Jusqu'en 1946, l'Italie était un empire dirigé par Wansa Savoia. Mais le premier ministre italien, Benito Mussolini, a imposé un système de fascisme et a entraîné l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, l'Allemagne. Ce référendum a eu lieu après la défaite de l'Italie dans la guerre. Lors de ce référendum, la plupart des électeurs souhaitent un système républicain, de sorte que la République italienne a été créée en 1946. Le 2 juin 1964, l'Opération de libération de la Palestine, ou abrégée en OLP, a été fondée. L'Opération de libération de la Palestine est une organisation créée dont le but est de libérer la Palestine. Cette organisation était connue en tant que représentant légitime du peuple palestinien par 100 pays et bénéficiait du statut d'observateur auprès de l'Organisation des Nations Unies depuis 1974. Lors de la première réunion au Caire en 1964, la Ligue arabe a commencé à créer une organisation représentant le peuple palestinien. le Conseil national palestinien s'est réuni à Jérusalem le 28 mai 1964. L'OLP, ou l'Opération de libération de la Palestine, a été créée le 2 juin 1964. Le 2 juin 1967, la mort de Benno Hohnesser. Benno Hohnesser était un étudiant allemand tué par un policier le 2 juin 1967 lors d'une manifestation à Berlin opposant à la visite du Shah iranien Mohammad Reza Pahlavi en Allemagne. Sa mort a rassemblé des étudiants radicaux de gauche. Ensuite, le mouvement de 2 juin a été formé et a porté le nom remontant à la date du décès d'Hohnesser. Un monument commémorant la mort d'Hohnesser a été fondé à Berlin. Dans sa ville natale, Hanovre, un pont traversant l'Ime est baptisé en son honneur. C'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Apa kau terdiam, ku bertanya, kau malah geram. Takkan sengaja aku buat dirimu marah, namun kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Apa salah diriku, kemana hilangnya dirimu? Ku jadi sendiri, oh. Tak ada manusia yang dapat tahu apa pikiranmu. Ku tahu engkau tak merasa seperti itu. Pantas kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah diriku. Kemana hilangnya dirimu? Ku jadi sendiri. Sendiri berpikir apa salah diriku, kemana kemana hilangnya dirimu, hilangnya dirimu, hey! Ku jadi sendiri hubungi semua teman-teman, teman-teman sendiri.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Bientôt, je vais vous présenter le programme radiophonique Mon Indonésie. Et aujourd'hui, intitulé L'Indonésie place le premier consul honoraire indonésien à Antigua et Barbuda. Afin d'améliorer activement les relations bilatérales entre l'Indonésie et Antigua et Barbuda, le gouvernement de la République d'Indonésie a nommé Paul et Ryan un homme d'affaires à Antigua et Barbuda en tant que premier consul honoraire indonésien pour Antigua et Barbuda. Cette nomination était conforme au décret du président de la République d'Indonésie du 8 novembre 2019 et était équipée d'une lettre de commission. Dans la lettre, le président Joko Widodo a déclaré que pour sauvegarder les intérêts de l'État et des citoyens de la République d'Indonésie, à Antigua et Barbuda, Paul et Ryan a été nommé consul honoraire de la République d'Indonésie à Saint John's, Antigua et Barbuda. Paul et Ryan a commencé à faire ses fonctions de consul honoraire après avoir reçu un exequatur ou lettre de reconnaissance de 4 décembre 2019 signée par le gouverneur général d'Antigua et Barbuda agissant au nom de la reine Elisabeth II. L'investiture et l'inauguration du bureau du consul honoraire de la République d'Indonésie à Antigua et Barbuda devrait avoir lieu en mars 2020. Mais en raison de la pandémie de COVID-19, cette procession est reportée. L'ambassadeur d'Indonésie à Bogota, en même temps qu'Antigua et Barbuda, Prio Iswanto, en tant qu'ambassadeur non résident à Antigua et Barbuda, représentant le président Joko Widodo, devrait inaugurer le bureau du consul honoraire indonésien pour Antigua et Barbuda lorsque la situation le permettra. En tant que consul honoraire, Paul et Ryan a également joué un rôle en soutenant l'ambassadeur Prio Iswanto dans la promotion des relations bilatérales entre l'Indonésie et Antigua et Barbuda, en particulier dans les domaines économiques et socioculturels et la protection des citoyens indonésiens à Antigua et Barbuda. L'ambassadeur Prio Iswanto a exprimé sa conviction que Paul et Ryan, compte tenu de sa réputation extraordinaire et de son vaste réseau dans son pays, serait en mesure de créer et de faciliter les contacts inter-entreprises entre les entrepreneurs d'Antigua et Barbuda et leurs partenaires indonésiens. L'Indonésie considère Antigua et Barbuda comme des partenaires importants dans la région des Caraïbes. Depuis l'établissement des relations diplomatiques le 23 septembre 2011. Les deux pays ont établi des relations solides dans les affaires bilatérales et multilatérales. Le gouvernement indonésien a accordé des politiques d'exception de visa aux citoyens d'Antigua et Barbuda pour visiter l'Indonésie, comme stipulé dans le décret présidentiel numéro 21-2016, dans le cadre de la facilitation visant à promouvoir les contacts de personne à personne. Paul et Ryan est un homme d'affaires bien connu à Antigua et Barbuda qui a eu une collaboration intensive avec des partenaires en Asie. Actuellement, il est également le membre du comité de relance économique qui a été récemment créé par le gouvernement d'Antigua et Barbuda, qui se concentre principalement sur la création d'emplois, la diversification économique, la création de nouvelles entreprises et de nouveaux marchés, ainsi que l'accélération des échanges. Mon cher Jolitar, c'était mon analyse d'aujourd'hui. Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, on se revoit au magazine culturel. Aujourd'hui, je vous présente la mosquée d'Arusalam à Jaffa de l'Est. Visiter la mosquée est l'une des activités touristiques intéressantes du mois de Ramadan. En tant que pays comptant la plus grande population musulmane du monde, nous pouvons facilement trouver la mosquée en Indonésie. Cette fois-ci, nous vous invitons à Jaffa de l'Est pour visiter la mosquée Darussalam. Cette mosquée est l'une des plus anciennes mosquées de Mojokerto. Elle est devenue un témoin silencieux du développement de l'islam à Mojokerto pendant la période coloniale néerlandaise. Elle se trouve à la route de Gemakan, au district de Soko. La mosquée qui a été construite par la région de Mojokerto, Raden Adipati Aryo Kromojoyo Adinegoro, a été fondée en 1893. Elle semble toujours être solide jusqu'à maintenant. Chers auditeurs, la mosquée Darussalam a été construite par le régent Kromojoyo Adinegoro III sous le prénom Raden Ersadan en 1893. Le coût de construction de la mosquée provenait de son argent personnel. Cela est attesté par les inscriptions de construction installées dans la mosquée. Le régent de Kromojoyo a effectué la pose de la première pierre, la 15e. Le régent de Kromojoyo a effectué la pose de la première pierre le 15 janvier de la même année. Cette mosquée est assez simple. Au début, le bâtiment de mosquée se composait uniquement d'un bâtiment principal et de deux ablutions pour femmes et hommes. Puis en 1990, cette mosquée a subi un changement. En 1990, la mosquée de Darussalam a été modifiée à plusieurs parties. Des modifications ont été apportées aux portes, au sol, aux terrasses de la mosquée et à la salle de la rassemblement des femmes. Ce n'est pas tous les bâtiments de mosquée ont été changés. Certaines parties sont toujours conservées comme celui de l'original, comme les quatre piliers principaux qui soutiennent le bâtiment principal de la mosquée et Joglo. Joglo est la place d'Azan. Puis la chaire du sermon, les escaliers menant à la salle de prière située au deuxième étage et le lieu d'ablution du côté sud de la mosquée. La partie unique qui est encore conservée aujourd'hui est l'escalier de la mosquée. En général, la mosquée a été construite avec des tours pour l'appel à la prière ou azan dehors du bâtiment principal. Mais la mosquée Darussalam a des escaliers au milieu de la salle principale. Cet escalier en bois avec une armature en fer mène au deuxième étage, appelé Joglo ou pour l'appel azan. Joglo sert de lieu pour azan ou l'appel à la prière. Mais depuis la présence de haut-parleurs, cette partie ne fonctionnait plus. Chers auditeurs, voilà le magazine culturel avec Voice of Indonesia.
kita tak bertemu, takkan pernah ku rasakan artinya rindu. Kalau kita dulu tak kenal, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute!
chers amis, apprenons l'indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est Biar aku saja. Je répète, Biar aku saja, qui signifie laisse-moi faire. Je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée Biar aku saja. Biar aku saja, en français, laisse-moi faire. Le dialogue se déroule à la maison de Joko. La famille de Joko célèbre le jour de l'Eid. Tony et Joko et Dinda a préparé des repas et du thé sucré. Dinda goûte le thé sucré.
Dinda. Tehnya kurang manis. Tony. Oh, aku akan ambil gula. Dinda. Biar aku saja. Tony. Oke. Gulanya aku simpan di dekat kompor.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. Biar aku saja. Biar aku saja, qui signifie laisse-moi faire. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Tehnya kurang manis. Tehnya kurang manis signifie le thé est moins sucré. Gula. Gula signifie sucre. Aku akan ambil gula. Aku akan ambil gula signifie je vais prendre du sucre. Biar aku saja. Biar aku saja signifie laisse-moi faire. Gulanya aku simpan di dekat kompor. Gulanya aku simpan di dekat kompor. Qui signifie je garde le sucre près du poêle. Dans le dialogue, Dinda dit biar aku saja. Je répète. Biar aku saja. C'est-à-dire, laisse-moi faire. Quand Tony va prendre le sucre. Cette phrase est utilisée pour aider les autres, mais elle est seulement utilisée dans des situations informelles. Par exemple, biar saya saja yang memotong kue. Biar saya saja yang memotong kue. Qui signifie « Laisse-moi couper le gâteau ». Et l'autre exemple, « Biar dia saja yang mengambil pisau ». Biar dia saja yang mengambil pisau. Qui signifie « Laisse-le prendre le couteau ». Ensuite, vous entendez « Tehnya kurang manis ». Tehnya kurang manis. En français, le thé est moins sucré. Alors, vous entendez aussi le mot gulanya. Gulanya, qui signifie sucre. Le mot nya, dans le mot tehnya et gulanya, se réfère au thé et au sucre. Cela signifie défini. Cette forme est communément trouvée dans le langage courant. Comme dans le dialogue, Tony a dit que garpunya tidak ada. Garpunya tidak ada, qui signifie que la fourchette qu'il cherchait n'existait pas. Avant de terminer à apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Dinda. Tehnya kurang manis. Tony. Oh, aku akan ambil gula. Dinda, biar aku saja. Tony, oke. Gulanya aku simpan di dekat kompor.
Chers amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre la langue indonésienne aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention. À demain.
Satu, ternyata masih salah langkahku. Kita sudah ada di ujung jalan. Apakah ini saatnya? Apakah cinta kadaluarsa? Kita pernah bermimpi bersama untuk menggapai bintang di angkasa. Bersama kita melawan dunia, namun hanya di awal saja ku rasakan manisnya cinta dekat tubuhku. Ku lepaskan hatimu.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute.
Bonsoir à tous. Sur cette édition, nous allons vous donner la chanson religieuse intitulée « Dunia Pasti Berputar ». Créée par Charlie Estedouze, les paroles de cette chanson nous disent que la roue de la vie tourne, ce qui pourrait être à la base et inversement. Les paroles de chansons pleines de conseils deviendront une philosophie de la vie. Cette chanson nous rappelle de toujours nous souvenir de Dieu. L'arrangement musique de cette chanson est simple, avec l'ajout d'une corde d'orchestre, de sorte qu'il est parfait à écouter. La chanson intitulée
Dunia pasti berputar. Ou en français, le monde doit tourner figurait dans l'album ST12 intitulé Pangeran Cinta ou la Prince de l'amour, sorti en mai 2010. Bon, chers auditeurs, voici ST12 chantant Dunia pasti berputar.
Saatnya semua harus berubah. Ingat pasti bertukar. Kita harus siap hadapi semua. Ikhlaskan segalanya. Jalani semua yang ada di dunia. Saatnya semua harus berubah. Ikhlaskan segalanya. Jalani semua yang ada. Oh, dunia pasti berputar. Ada saatnya semua harus berubah. Pasti bertukar. Kita harus siap hadapi semua. Ikhlaskan segalanya. Jalani semua yang
of Indonesia.
hidup. Dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar, Maha Besar. Memujamu begitu indah. Selalu kau berikan semua.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.